Chapitre 18. La providence de Dieu dans le travail des publications. Connaissons, cherchons à connaître l'Éternel. Sa venue est aussi certaine que celle de l'aurore. Osée 6, verset 3. Jusqu'au mois de juin 1849, les travaux de frère White, de son épouse et de frère Bates étaient limités aux États de la Nouvelle-Angleterre. À ce moment, Madame Clarissa Bonfoy de Middletown, Connecticut, joignit la famille de frère White. Peu de temps auparavant, sa mère mourut, lui laissant tout le nécessaire pour un petit ménage. Par ce moyen, frère White fut capable d'établir son foyer, et il fit cela dans une partie de la maison de M. Belden à Rocky Hill, Connecticut. Début du spiritualisme moderne. Le 24 mars 1849, une assemblée générale fut tenue à Topsham, Maine. Pendant ce sabbat, une vision fut donnée à Madame White, dont l'objet était de la plus grande importance. Peut-être une meilleure compréhension de la vision sera obtenue en donnant une idée générale de la situation du moment. Pendant les derniers jours de mars 1848, à Hydesville, dans le comté de Wayne, New York, commencèrent les bruits mystérieux, ou ce qui par la suite devint les esprits frappeurs. Cette première occurrence eut lieu chez la famille Fox. Dans la dernière partie de l'été, cette famille s'installa à Rochester, New York, où, dans la salle Corinthe, des démonstrations publiques furent faites, et les filles furent soumises à un examen très serré par des comités composés d'hommes et de femmes, sélectionnés à cette fin parmi les meilleurs citoyens. Alors que la grande majorité de la population considérait les coups comme étant une fumisterie ou des tours de magie habiles, les plus crédules n'avaient aucune idée que cela se développerait dans de très grandes proportions. Prédiction sur le spiritisme. Dans la vision mentionnée plus haut, Madame White vit que les mystérieux coups frappés à Rochester et dans d'autres endroits venaient de la puissance de Satan, que de telles choses seraient de plus en plus courantes et qu'elles seraient présentées sous le manteau de la religion pour bercer dans une fausse sécurité ceux qui sont trompés, pour attirer, si possible, les pensées du peuple de Dieu sur ces choses et les amener à douter des enseignements de l'Esprit-Saint. Mais très peu de gens, pour ne pas dire personne à l'époque, avaient la moindre idée que le spiritisme se répandrait sur la terre comme cela fut prédit, ou même qu'il prétendrait être une religion avec ses églises organisées régulièrement et ses pasteurs. Prédiction accomplie. L'accomplissement de la prophétie, cependant, est évident lorsqu'on considère le nombre de ses membres, qui est soi-disant de 10 millions aux États-Unis uniquement. Quant au manteau de religion actuel, nous citons la Review and Herald, Washington, D.C., du 12 novembre 1903. Au cours du récent congrès de l'Association nationale des spiritualistes, qui eut lieu dans cette ville, un nouveau rituel fut adopté. La consécration des pasteurs ou ministres fut prévue, et une compagnie de croyants dans le spiritualisme fut reconnue comme une église. On peut voir cela en lisant la section suivante du nouveau rituel. Aucun pasteur ou ministre ne doit être établi sur une église ou compagnie sans avoir d'abord été officiellement établi dans cette fonction par ce qui fut connu depuis les premiers âges de l'histoire religieuse comme un service de consécration. Aucun individu ne peut être candidat à la consécration tant qu'il n'a pas reçu un appel pour le pastorat d'une particulière église ou société ou fut nommé missionnaire par une association spiritualiste constituée en corps religieux dans l'État où elle est située ou par l'association spiritualiste des États-Unis d'Amérique. Tous les individus qui sont candidats au pastorat ou à l'œuvre missionnaire doivent avoir été pendant au moins 3 ans en pleine communion avec une église ou société spiritualiste et avoir été pendant au moins 2 ans un licencié, mandaté comme orateur à l'essai par l'association d'un État ou l'association nationale. Les pasteurs établis pendant moins d'une année civile complète ne pourront pas être consacrés. Frère White à Oswego, New York. Comme le travail de publication était situé à Oswego, New York, Frère White déménagea du Connecticut et s'établit dans cette ville en automne 1849. Et, le 3 novembre de la même année, une conférence des croyants s'y réunit. Concernant la suite de leur travail, Madame White écrit « Nous avons alors décidé qu'il était de notre devoir de travailler dans l'État de New York. Mon mari avait le souci d'écrire et de publier. Nous avons loué une maison à Oswego, puis nous avons emprunté des meubles de nos frères et avons emménagé. Là, mon mari écrivit, publia et prêcha. Il lui était nécessaire de porter son armure à chaque instant, car il devait souvent affronter de soi-disant adventistes qui préconisaient des erreurs, prêchaient des dates particulières et cherchaient à porter atteinte à notre foi de toutes les façons possibles. Publication de la seconde Advent Review. Pendant l'automne 1850, il fut jugé souhaitable d'effectuer un autre changement. En conséquence, frère White s'installa à Paris, dans le Maine, où le premier volume de la seconde Advent Review and Sabbath Herald, revue adventiste, fut publié comme un semi-mensuel, composé de 13 numéros, chacun contenant 8 pages sur 2 colonnes, dont les pages mesuraient 18 cm sur 26. Le premier numéro fut daté du mois de novembre suivant, et le dernier numéro, du 9 juin 1851. La taille de ce périodique, plus grande que celle de Prison Truth, était un très bon indice de la propagation proportionnelle de la vérité, de l'augmentation du nombre des travailleurs dans la cause et de supporters de l'œuvre. Comme les termes du périodique étaient gratuits, on s'attendait à ce que les amis de la cause aident sa publication, et c'est ce qu'ils ont fait. Bien que les fidèles fussent principalement des gens à budget moyen, ils aidèrent selon que le Seigneur les avait fait prospérer et contribuèrent à l'avancement de la vérité selon leur habilité. Andrews commence à prêcher. Vers cette époque, Andrews, qui habitait à Paris, dans le Maine, commença ses travaux en tant que ministre de l'Évangile et auteur sur des thèmes religieux. Dans la Review de mai 1851, il publia un article de plus de 5 pages sur le sujet des trois messages. Dans cet article, il appliquait la prophétie de la seconde bête d'Apocalypse 13 aux États-Unis, prenant la position, en se basant uniquement sur la prophétie, que la mise en vigueur du dimanche comme sabbat serait le point sur lequel une union de l'Église et de l'État allait enfin être basée dans ce pays. Son argumentation reposait entièrement sur la prophétie, car aucun mouvement de l'époque ne permettait de pencher dans cette direction. La plus forte expression qui pouvait être trouvée en sa faveur était une déclaration du docteur Durbin, prise du Christian Advocate and Journal, qui disait « Lorsque le christianisme devient la vie morale et spirituelle de l'État, l'État est tenu, par ses magistrats, d'empêcher la violation ouverte du Saint-Sabbat comme mesure d'autopréservation. Vente de ferme pour aider l'œuvre. » C'est vers cette époque que des hommes comme Hiram Edson, de New York, et Cyrenius Smith, de Jackson, dans le Michigan, furent amenés à vendre leurs fermes, d'une valeur de 3 500 $ chacune, et à louer des fermes pour leur propre usage, pour qu'ils puissent avoir les moyens d'aider dans différents projets qui surgiraient dans la poursuite de l'œuvre du message. Déménagement du travail de publication à Saratoga. En 1851, frère White déménagea de Paris, Maine, à Saratoga Springs, New York, et là encore en empruntant des meubles, il installa son foyer et publia le deuxième volume de l'Advent Review, le premier numéro portant la date du 5 août de la même année. Ce volume fut composé de 14 numéros et était publié 2 fois par mois. Le dernier numéro fut publié le 23 mars 1852. Le nom du périodique fut légèrement changé de Second Advent Review, qu'il avait dans le premier volume, à l'Advent Review and Sabbath Herald, nom qui reste encore dans son 82e volume. La taille du périodique fut augmentée à 3 colonnes, 8 pages, la page imprimée mesurant 21 cm sur 30. L'augmentation de la taille de ce qui était, et qui est toujours le périodique officiel de la dénomination, montre que chaque changement est une amélioration, indique un degré raisonnable de prospérité, et donne une forte preuve que l'œuvre du troisième ange est là pour rester. Les publications à Rochester. Possession d'une presse à main. Le 6 mai 1852, le premier numéro du troisième volume de l'Advent Review and Sabbath Herald fut publié à Rochester, New York, et fut imprimé sur une presse et avec des types appartenant aux adventistes du septième jour. Hiram Edson avait avancé les moyens pour l'achat d'une presse à main Washington, avec les caractères et l'équipement pour l'aménagement du bureau. Il devait recevoir son salaire des dons qui devaient venir d'amis de la vérité. Cette presse à main resta dans le bureau de la Review and Herald de Battle Creek, Michigan, jusqu'à ce qu'elle soit détruite dans l'incendie du 30 décembre 1902. À cette époque, elle était considérée comme la meilleure presse typographique du bureau. Dans le numéro 12 du troisième volume, du 14 octobre 1852, on annonça que le coût de l'aménagement de l'office avec cette presse et son équipement était de $652.93, et les reçus des dons à cet effet jusqu'à cette date s'élevaient à $655.84. Chacun des 12 numéros du périodique fut publié et distribué gratuitement à 2000 exemplaires. Le début du Youth Instructor. La publication, une fois par mois, du Youth Instructor, l'instructeur de la jeunesse, commença au bureau de la Review en août. Maintenant, c'est un hebdomadaire ayant 4 fois plus de lectures dans chaque numéro qu'il contenait à l'époque. Uriah Smith s'associe au bureau. En 1853, frère Uriah Smith commença à travailler au bureau de la Review and Herald, où il occupa un poste de responsabilité pendant un demi-siècle. Cette année-là, 1853, il était mentionné dans la Review and Herald pour la première fois que ceux qui voulaient le faire pouvaient acheter nos publications en payant le prix de revient. Le périodique était gratuit pour tous les autres et le déficit serait comblé par les dons de personnes de bonne volonté et généreuses. En 1854, il fut annoncé que le prix de la Review semi-mensuelle était de 1 $ par an. Pendant le mois de juillet de cette même année, à des réunions sous la tente dans le comté de Macomb, Michigan, on fit un effort pour vendre nos publications. Au cours de cette réunion, on vendit des livres pour un total de 50 $. Frère White, en parlant de cet effort, déclara dans la Review : « Ceci montre que nos livres peuvent être vendus. » Appel pour un fonds de $500 pour des tracts. Dans la Review des 12 octobre et 24 décembre 1854, des appels furent lancés pour un fonds de $500 pour permettre à l'imprimerie de fournir des tracts aux ministres pour les distribuer gratuitement dans le cadre de leur travail, et aussi pour un fonds de secours de $500 pour le bureau pour que la Review puisse paraître régulièrement chaque semaine au lieu de sauter parfois une semaine par manque de fonds. Kellogg et Henry Lyon vendent leur ferme. C'est pendant cette période que Kellogg de Tyrone et Henry Lyon, qui vivaient près de Plymouth, Michigan, vendirent leur ferme, chacune d'une valeur de $3,500, dans le seul but d'avoir des moyens à utiliser pour l'avancement de l'œuvre. Et ainsi, ces deux frères du Michigan s'avancèrent au bon moment, avec des moyens disponibles et des cœurs disposés pour aider où cela était le plus nécessaire. Le premier s'engagea dans la fabrication de balais à Jackson, Michigan, tandis que le second s'installa à Battle Creek et travailla dans la menuiserie pour soutenir sa famille. Tous nos périodiques et nos livres pour $3. À la fin du sixième volume, en juin 1855, on pouvait obtenir la Review et le Youth Instructor pendant un an, plus un ensemble complet de tous les tracts, brochures, plus le livre de cantiques qui était utilisé à l'époque, soit en tout 26 brochures et tracts pour la somme totale de $3. Le prix du Youth Instructor était de 25 centimes pour 12 numéros. Le bureau de la Review invité au Michigan. Pendant le mois d'avril 1855, frère White et son épouse se rendirent de nouveau dans le Michigan et tinrent des réunions dans plusieurs endroits. Les 28 et 29 du même mois, une conférence se réunit à Battle Creek, au cours de laquelle les frères de Battle Creek votèrent d'inviter frère White à déménager le bureau de la Review de Rochester à Battle Creek. Daniel Palmer, Cyrenius Smith Kellogg et Henry Lyon acceptèrent de fournir $300 chacun, sans intérêt, pour une somme totale de $1,200, pour l'acquisition d'un terrain et y construire un bureau d'imprimerie. En conséquence, ils obtinrent un terrain à l'angle des rues West Main et Washington et y érigèrent un bâtiment en bois à un étage de 7 mètres sur 10 avec des piliers de 7 mètres. Première maison de rencontre à Battle Creek. Au cours de la même saison, on érigea la première maison de réunion adventiste de Battle Creek, d'une grandeur de 6 mètres sur 8. Ce bâtiment simple, recouvert de planches et sécurisé, se tenait près de l'angle nord-ouest des rues Van Buren et Cass. Dans notre premier bureau d'imprimerie. Le premier numéro de la Review, publié à Battle Creek dans un bureau appartenant aux adventistes du septième jour, fut daté du 4 décembre 1855. Le prix du périodique fut alors établi à 1 dollar pour un volume de 26 numéros, mais des dons étaient sollicités pour envoyer le périodique à des pauvres le méritant. À partir de ce moment, les frères Wagoner et Cottrell furent des collaborateurs presque constants aux colonnes de l'Advent Review. Dans la review du 18 décembre 1855, le comité de l'imprimerie fit une déclaration qui pourra paraître étrange aux employés de l'imprimerie d'aujourd'hui. On y lisait « Nous ne voyons pas pourquoi ceux qui travaillent au bureau ne devraient pas recevoir une compensation raisonnable pour leur service. » L'éditeur ne reçoit que la moitié de ce qu'il pourrait obtenir ailleurs. Il peut être bon de mentionner que les salaires moyens de l'époque n'étaient pas la moitié de ce qu'ils sont à l'heure actuelle, et que la demi-solde de l'époque n'était pas plus d'un tiers ou un quart de ce que le bureau paye pour un travail similaire maintenant. Les travailleurs du bureau de l'époque faisaient don de la moitié de la valeur de leur service pour que l'évangile de la vérité présente puisse être publié. Appel pour une presse à moteur. Dans la review du 19 mars 1857, la suggestion fut formulée pour la première fois qu'une presse à moteur était nécessaire et devait être obtenue pour l'impression des documents, tracts et livres. Le 2 avril, il fut rapporté que la décision avait été prise d'acheter une presse Adams et 7 hommes s'engagèrent à donner 100 dollars chacun pour son achat. Dans le numéro suivant, on déclara que la presse et le moteur coûteraient environ 2500 dollars et que les contributions avaient déjà atteint 1700 dollars. Dans un éditorial de Frère White de la Review du 13 août 1857, on lit cette déclaration encourageante. « Notre bureau n'a pas de dette. Il y a un fonds de réserve générale de 1426 dollars, maintenant investi dans des livres. » La nouvelle presse à moteur est en marche et elle fonctionne à merveille, et nous avons bon espoir qu'elle fonctionnera bientôt à la vapeur et sera entièrement payée. Nos rencontres sous la tente sont bien plus soutenues qu'auparavant. Premier rapport de vente de livres. Le 29 octobre 1857, il fut rapporté dans la review que la vente de livres des deux années précédentes avait atteint un total de 1287,91 $, ce qui était le premier rapport de ce genre fait à cette date. C'était un signe des progrès de la cause et donc une source d'encouragement, car cela montrait que la vérité gagnait en force et des flots de lumière faisaient leur chemin autour du monde. Le bureau de la Review, un dépôt sûr. Dans la review du 13 août 1858, l'idée fut avancée pour la première fois à notre peuple de faire du bureau un lieu de dépôt pour les excédents de moyens. Les personnes qui avaient de l'argent pour lequel ils n'avaient pas d'usage immédiat pouvaient le déposer au bureau et le retirer à tout moment sur demande selon leurs besoins, et ainsi donner au bureau le bénéfice de son utilisation. Cette suggestion étant prise en compte, elle donna une plus grande solidité financière à l'œuvre. De cette date à aujourd'hui, 1905, personne n'a encore perdu un dollar ainsi prêté à nos maisons d'édition, ni échoué à obtenir son argent lorsqu'il en avait besoin. Les gens francs, réfléchis, en sont venus à considérer nos bureaux de publication comme un endroit plus sûr même pour déposer leurs moyens en excédent que les banques qui échouent si souvent. Les banques ont le crédit du monde, alors que nos maisons d'édition ont la force de toute la dénomination pour les soutenir. Organisation de la Seventh-day Adventist Publishing. Association. Association de l'imprimerie adventiste du septième jour. La Seventh-day Adventist Publishing Association fut organisée le 3 mai 1861. Et des circulaires furent envoyés sollicitant des abonnements au capital d'action de 10 dollars par action. En deux semaines, il fut annoncé que 4080 dollars en stock avaient déjà été souscrits. À partir du 11 juin de cette année, la review fut publiée par la Seventh-day Adventist Publishing Association. Le premier immeuble de bureau construit par l'association fut situé à l'angle sud-est des rues Main et Washington. La structure de l'ancien bâtiment de ce site fut transportée rue Kalamazoo. Cette structure avait un étage et des murs en briques solides. Elle était en forme de croix grecque et sa façade nord donnait sur la rue Main. La mesure totale d'est en ouest était de 15 mètres et du nord au sud de 24 mètres. Première publication en d'autres langues. Pas à pas, le message avançait et chaque mouvement agressif tendait à renforcer et à consolider le travail. À cette époque, notre maison d'édition publiait 5 brochures en langues étrangères, 3 en danois/norvégien et 2 en français. C'était ainsi le début de l'impression pour les pays étrangers. Avec l'augmentation constante du nombre de membres, il y eut une croissance continue et régulière des finances. Ceci est indiqué par le rapport de la Review du 16 mai 1863, dans lequel le secrétaire de l'association fit une déclaration de tous les revenus comme suit. Reçu à ce jour par l'association en actions et en dons, 10 374,13. Reçu du bureau de Rochester, 700,00. Reçu pour matériel supplémentaire, 300,00. Reçu pour le fonds de livres, 1 355,00. Reçu pour la presse et le moteur, 2 500,00. Total blanc, 15 $229.13. Le secrétaire ajoute. En faisant une estimation prudente de la propriété de l'association, sa valeur n'est pas moins de $20,000, soit près de $5,000 de plus que ce qu'elle a coûté aux amis de la cause. C'est un bon témoignage de l'intégrité et de la fidélité de frère White et de ceux qui lui ont été associés dans le bureau de la Review. Walker, secrétaire. Transfert de la Review à l'association. Le travail d'imprimerie ayant été porté à ses résultats par les labeurs et les sacrifices éprouvants de frère White, les bénéfices qui en découlaient lui appartenaient virtuellement, car le gain était vraiment le fruit de son renoncement, de son sens des affaires et de sa gestion soigneuse. Mais au lieu de les réclamer, même en partie, il les donna joyeusement à l'Église, et plus encore, lorsque l'association, après son organisation, vota qu'il devait recevoir $6 par semaine pour ses services rendus, il n'en accepta que 4. Un périodique sur la côte du Pacifique. Dans un article de frère White de la Review du 21 avril 1874, il déclara, en parlant de l'œuvre sur la côte du Pacifique, qu'il serait bientôt nécessaire de créer un hebdomadaire consacré aux intérêts de la cause sur cette côte. Peu de temps après cela, la voie fut ouverte pour l'achat d'une petite quantité de matériel et de caractères à Auckland, avec lequel on commença, au mois de juin, une publication bimensuelle appelée « Signs of the Times », les signes des temps. Réunir les moyens. Après avoir imprimé 6 numéros des Signs, frère White retourna à l'Est, demandant à la Fédération de la Californie de pourvoir à la publication du périodique. Lors de la conférence générale, le 15 août 1874, une proposition fut faite aux frères de l'Est de collecter $6,000 pour acheter une presse, un moteur et les caractères pour le bureau des Signs, si les frères de la côte du Pacifique réunissaient $4,000 pour se procurer un site et y construire un immeuble convenable pour un bureau. Frère George I. Butler, à l'époque membre du comité de la conférence générale, assista au camp meeting de Yountville, en Californie, et présenta la proposition aux frères. Le 11 octobre 1874, ils répondirent à l'appel en promettant la somme de $19,414 en pièces de monnaie. La Pacific Press établie. Le 2 février 1875, James White et son épouse, accompagnés de wagonneurs et d'autres travailleurs efficaces, arrivèrent à Auckland. Le 12 du même mois, une session spéciale de la Fédération de la Californie fut réunie pour discuter de l'emplacement pour construire des bâtiments pour le bureau des Signs of the Times. Après délibération, la décision fut prise de se procurer un terrain sur le côté ouest de la rue Castro, entre les 11e et 12e rues. Le même jour, frère White et John Morrison achetèrent ce terrain, mettant les titres à leur propre nom, étant entendu que lorsque l'association serait formée, il lui transférerait le titre de la partie de terrain qui sera considérée nécessaire aux besoins de la société. La Pacific Seventh-day Adventist Publishing Association fut formé le 1er avril 1875 à Auckland. Son capital d'action fut fixé à 28 000 $. La partie centrale du terrain de la rue Castro fut cédée, selon l'accord, à l'association, et un bâtiment fut construit aussitôt par Jones de Battle Creek, Michigan. Sa forme et sa taille étaient les mêmes que celles du bureau érigé à Battle Creek, sauf que celui d'Auckland fut construit en bois au lieu de briques. Cet édifice étant prêt pour occupation, la maison d'édition Signs of the Times fut emménagée dans ses nouveaux locaux le vendredi 27 août 1875. Transférée à Mountain View. La publication de périodiques et de livres fut effectuée avec succès dans ce bâtiment jusqu'en 1904, lorsque des dispositions furent prises pour déménager l'imprimerie à la campagne. La raison de ce changement est donnée par le directeur de la Pacific Press en ces termes. Pendant des années, la direction de la Pacific Press Publishing Company a estimé que le terrain occupé aujourd'hui par leur maison d'édition avait trop de valeur et la surface du terrain trop petite pour une usine au cœur du quartier résidentiel d'une grande ville, et qu'il est sage, pour beaucoup de raisons, de rechercher une région rurale où la terre est moins chère, où des maisons dans un environnement sain pouvaient être obtenues par les employés avec suffisamment d'espace pour des jardins, des arbres fruitiers et de l'espace entre les maisons, et où les frais d'expédition seraient avantageux. Un tel lieu fut trouvé et obtenu dans le village de Mountain View, dans le comté de Santa Clara, 63 km au sud de San Francisco, un lieu qui combine plusieurs des avantages de la ville aux avantages d'une vie saine à la campagne. L'impression commence à l'étranger. Comme signe de la propagation de la vérité, nous notons que de 1875 à 1878, l'œuvre d'impression commença à Bâle, en Suisse, et à Christiana, en Norvège. Pendant l'automne 1875, un rapport fut présenté dans la Review de la vente des livres faite uniquement au bureau de la Review and Herald pendant 7 ans, de 1868 à 1875, pour un montant de $85,644, près de 6 fois plus qu'au cours des 7 années précédentes, et les ventes totales des 4 bureaux, du Michigan, de Californie, de Suisse et de Norvège, pendant 3 ans, de 1875 à 1878, fut de $98,163.73. Une déclaration fut faite dans la Review du 17 octobre 1878 que tous les livres, brochures, tracts imprimés par le bureau de la Review avant 1864 s'élevaient à 50 058 000 de pages. De 1864 à 1878, le nombre de pages fut 158 130 951, soit un total de 208 188 951 pages. Le Youth's Instructor devient hebdomadaire. Jusqu'au 1er janvier 1879, le Youth's Instructor était publié une fois par mois. Mais à partir de cette date, alors qu'il entrait dans sa 31e année, il devint hebdomadaire et donc son utilité fut quadruplée. Ce que Frère White remit à l'association. Dans la Review du 23 janvier 1879, des déclarations furent faites par Frère White concernant sa relation avec la cause, qu'il est bon d'introduire ici, car il projette plus de lumière sur les sacrifices consentis dans le travail des publications. La citation se lit comme suit. Quand, en 1861, la Publishing Association fut instituée à Battle Creek, Michigan, nous avons donné notre liste d'abonnés et le droit de republier toutes nos œuvres, qui, depuis lors, furent déclarées avoir été d'une valeur de $10,000, à l'association, nous laissant seulement une valeur de $1,000. Et nous avons continué notre travail de rédacteur, gestionnaire et prédicateur à $6 par semaine. En 1866, lorsque nous sommes retournés au bureau de la Review, après une grave maladie, nous avons constaté que les gestionnaires payaient 10% sur des milliers et le capital d'action réduit à $32,000. Mais en 4 ans, avec la bénédiction de Dieu, les dettes étaient payées, le stock élevé à $75,000 et nous, l'association, avions $5,000 en banque. Situation de la maison d'édition en 1880. Dans la Review du 15 janvier 1880, Frère Butler dit « Notre maison d'édition, de Battle Creek, a récemment été agrandi par l'érection d'une partie centrale entre les deux bâtiments de l'Est, augmentant donc de façon significative la capacité et la commodité de l'ensemble. Il existe des installations pour clichés par galvanotype et stéréotype et faisant la meilleure relure. En fait, il est dit, par ceux qui doivent s'y connaître, que c'est la maison d'édition la plus parfaite et complète de l'État du Michigan. Malgré cet agrandissement, il devint nécessaire, avant la fin de l'été, de construire un nouveau bâtiment au sud du bâtiment principal pour une salle de presse. Les 5 presses à moteur de l'association y furent transférées. L'une de ces presses était d'une taille plus grande que n'importe quelle presse utilisée jusqu'alors au bureau. Une presse de même taille et style venait également d'être installée dans le bureau des Signs of the Times d'Oakland, Californie. Dans la review du 17 mai 1881, faisant référence au succès du travail des publications de la maison d'édition centrale de Battle Creek, Frère White dit « Ôter le montant des dettes de la Seventh-day Adventist Publishing Association d'une évaluation prudente de la propriété, et il reste en biens immobiliers et en biens personnels pas moins de 105 000 $. De cela, tous nos membres ont donné en actions, dons et legs la somme de 34 432 $17 et quelques hommes et femmes fidèles qui ont consacré leur vie à l'œuvre y ont ajouté, non pas des dons, mais par le sacrifice et une gestion minutieuse, 70 567 $ 83. Les débuts du travail de démarchage. En 1881, notre peuple commença une nouvelle entreprise et entra dans le travail de démarchage à domicile pour la vente de nos publications. Comme aucun rapport exact de leur vente ne fut fait par les colporteurs avant 1884, notre rapport pour cette période est constitué des ventes rapportées par les 4 maisons d'édition. Selon leurs chiffres, les ventes sur 5 ans furent de 221 248 $69. Comme l'influence de l'œuvre de nos missions d'Europe centrale et des pays scandinaves s'est étendue, la demande pour des publications en langues étrangères augmenta. Les ventes de livres pendant 10 ans. De 1884 à 1894, une période de 10 ans, la vente de nos grands livres fut en grande partie accomplie par les colporteurs. Leurs ventes pour cette période s'établirent à 4 031 391 $ et 26 centimes. Pendant cette période, notre œuvre s'est agrandie davantage par l'établissement de maisons d'édition en Australie, à Tahiti, dans les îles du Pacifique, à Helsingfors, Finlande, à Hambourg, Allemagne, et dans d'autres endroits. Les ventes des colporteurs pour l'année 1895, quoique les temps fussent durs cette année-là, furent rapportées être d'un total de 357 467 $ américains 23, ce qui fait un total général, y compris les ventes que nous avons déjà mentionnées, de 4 816 773 $ américains 73. 50 ans de vente, 11 millions de $. Pour déterminer le montant total des ventes de 1854 au 1er janvier 1896, il faut encore ajouter les chiffres de la vente de livres, brochures, tracts et graphiques commerciaux tels qu'ils sont rapportés par toutes les maisons d'édition pour les 10 dernières années, et dont le montant est de 3 458 278 $ et 23 centimes, donnant un total général pour la vente de livres de la dénomination pendant 22 ans de 8 275 051 $ 96. Pour l'énoncer sous une autre forme, les ventes de 30 ans, de 1854 à 1884, furent de 424 915 $ 24, et pour les 12 années suivantes, jusqu'au 1er janvier 1896, de 7 850 136 $ 72. Bien que la vigueur du colportage ait diminué pendant ces 8 dernières années, c'est une estimation prudente de dire que de 1854 jusqu'à l'heure actuelle, 1905, plus de 11 millions de $ de publications adventistes du 7e jour ont été vendus. L'impression dans une quarantaine de langues. Les progrès du message par les publications sont évidents lorsqu'on considère qu'on commença à imprimer dans près de 40 des principales langues, telles que l'allemand, l'arabe, l'arménien, le basuto, le bohémien, le bulgare, le bengali indien, le chinois, le danois, l'espagnol, le finnois, le français, l'estonien, le fidjien, le gallois, le grec, le hollandais, le hongrois, l'italien, le hawaïen, l'islandais, le japonais, le kafir, le letton, le livonien, le maori, le polonais, le portugais, le roumain, le russe, le serbe, le suédois, le tahitien, le tongan, le xhosa, etc. Des travailleurs actifs qui font progresser les vérités du troisième message sont dans ces divers pays et nationalités. Le nombre de livres, brochures, tracts et imprimés dans les différentes langues est supérieur à 1187. Pour obtenir un exemplaire de chacun et des 87 périodiques de la dénomination en différentes langues pour une année, il faut environ $340. Emplacement des 20 maisons d'édition. Les 20 maisons d'édition adventistes du 7e jour sont situées comme suit. Avondale, Australie. Battle Creek, Michigan, 2. Bâle, Suisse. Christiana, Norvège. Copenhague, Danemark. Le Cap, Afrique du Sud. Calcutta, Inde. College View, Nebraska. Hambourg, Allemagne. Helsingfors, Finlande. Londres, Angleterre. Melbourne, Australie. Montréal, Canada. Nashville, Tennessee. Auckland, Californie. South Lancaster, Massachusetts. Stockholm, Suède. Tokubaya, Mexique. Washington. Outre ces maisons d'édition, nos membres impriment des périodiques et des tracts à Hong Kong, Chine, à Tokyo, Japon, au Caire, Égypte, en Amérique du Sud et dans les îles Fidji. La première émission de brochures. Pendant un moment, nous allons faire un retour en arrière sur les facilités avec lesquelles les pionniers devaient travailler. En automne 1853, pour faire le premier livre imprimé sur la presse Washington, Le Sanctuaire, après qu'un ensemble de sœurs ait plié et rassemblé les signatures avant de les coudre, l'auteur les frappait avec un poinçon. Et après que les couvertures furent mises, Uriah Smith les coupait avec une règle et un canif aiguisé. Cela était fait en raison d'un manque de machines appropriées pour faire cette partie du travail. Pas plus tôt que 1861, toute la littérature de la dénomination était imprimée sur une presse Adams, entraînée par un moteur d'une puissance de 2 chevaux. Maintenant, dans les différents bureaux de publication, il y a plus de 40 presses mécaniques à vapeur fonctionnant en permanence et imprimant la vérité présente. Ces bureaux emploient un total de plus de 500 personnes pour continuer le travail, alors que des centaines de colporteurs sont sur le terrain vendant les livres aux gens. En 1862, un ensemble complet de toutes les publications émises par les adventistes du 7e jour pouvait être acheté pour la somme de $7,50. En 1904, comme cela fut montré, il fallait $340 pour se procurer un ensemble complet. Ce résultat est sans aucun doute autre chose que le simple fruit d'une conception humaine. La progression de l'œuvre de publication parmi les adventistes du 7e jour, comme cela fut prédit en 1848, fut en effet comme la progression du soleil, qui devient plus chaud, envoie ses rayons, conserve sa course comme le soleil, mais ne se couche jamais. Poussé par la foi. Le témoignage de frère Stone. Le zèle et l'ardeur de ceux qui firent progresser l'œuvre du message du troisième ange sont bien exprimés dans la review du 5 février 1884 par frère Albert Stone, l'un des pionniers dans la cause, qui vécut jusqu'à l'âge avancé de 90 ans. Le début de l'histoire de la cause fut une époque de petits commencements, et les moyens employés semblaient insuffisants pour le travail. Mais les hommes et les femmes de foi savaient, dès le début, que le bras puissant du Seigneur était engagé dans ce travail. Ils savaient que le temps en faveur de Sion était venu, et que le Seigneur mettait sa main pour rassembler son peuple. ils virent que le Seigneur était à la barre et que le bateau de l'Évangile, transportant l'Église du reste et sa cargaison de vérité restaurée, de foi éprouvée et d'amour parfait, arriverait à bon port.